Radio Prague, les informations.
Václav Klaus ne se représentera pas à la présidence de la République. Le centre des congrès de Prague est au bord de la faillite. Martina Sablikova désignée meilleure sportive de l'année. Le chef de l'État, Václav Klaus, a indiqué qu'il ne se représenterait pas à la présidence de la République à la fin de son deuxième mandat en 2013. Théoriquement, il ne peut pas se représenter selon les termes de la Constitution, mais cela pourrait changer si l'élection présidentielle passait au suffrage universel direct. Je considère comme exclue toute tentative de s'octroyer un troisième mandat sur le modèle des présidents d'Asie centrale. Je voudrais indiquer clairement qu'il n'en est pas du tout question, a déclaré le président Klaus dans un entretien accordé au quotidien Pravo daté de ce mercredi. Selon le journal E15, le centre des congrès à Prague cherche un investisseur pour faire face à une situation financière difficile. Son endettement atteint actuellement 2 milliards de couronnes, quelque 77 millions d'euros, et le centre se trouve au bord de la faillite. La dette serait due à d'importants travaux de rénovation dans les années 90, lorsque le centre se préparait à accueillir le congrès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. L'affaire OpenCard continue de faire couler l'encre. La mise en service d'une nouvelle carte à puce pour les usagers des transports en commun de la capitale est au centre de l'attention des médias tchèques à cause des soupçons de corruption qui pèsent sur les responsables municipaux, dans cette affaire dont le coût approche 1 milliard de couronnes. Le directeur du département informatique de la mairie, Václav Klaus, vient de donner sa démission. La société prégoise de transport en commun, DPP, et les syndicats ont signé une nouvelle convention collective qui doit durer jusqu'en 2012. L'accord prévoit notamment le gel des salaires des employés qui doivent payer davantage pour leurs tickets restaurants, mais qui conservent leurs semaines supplémentaires de vacances. La patineuse de vitesse, Martina Sablikova, double championne du monde 2009, toute distance et 100 000 mètres, a été sacrée mardi soir meilleure sportive tchèque de l'année par un jury composé de 228 journalistes spécialisés. Déjà lauréate en 2007, Martina Sablikova a devancé sur le podium la lanceuse de javelot Barbora Špotáková, sportive tchèque de 2008, et le jockey Josef Váňa, vainqueur à 57 ans du steeplechase de Pardubice. L'équipe de tennis de République tchèque, battue début décembre par l'Espagne en finale de la Coupe Davis, a été quant à elle élue équipe de l'année 2009. Météo ce mercredi, le jour de fête des Vlasta, selon le calendrier local. Le ciel en République tchèque est très nuageux et il pleut. Les températures d'Ion s'échelonnent de 0 à 4 degrés. C'est le journal présenté par Alena Gabertova.
Faits et événements en République tchèque. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de ces derniers faits et événements avant la fête de Noël. Une fête pendant laquelle les Tchèques mangent traditionnellement du poisson. Et pas n'importe quel poisson, de la carpe. Et oui, de la carpe, on en reparle dans un instant. Juste après un retour sur le titre de meilleure sportive de l'année 2009, décerné à la patineuse de vitesse Martina Sablikova. Du sport, on passera ensuite à l'archéologie, avec une découverte rare dans le sud de la Bohème. Et puis, on terminera avec les soucis financiers du nouveau directeur de l'Orchestre Philharmonique Tchèque. Très bonne réception, où que vous soyez dans le monde. Et c'est pour la deuxième fois de sa carrière que la patineuse de vitesse Martina Sablikova a été élue sportive tchèque de l'année 2009, mardi soir, à Prague. Ce nouveau titre, attribué depuis 41 ans par le club des journalistes sportifs du pays, couronne une saison fructueuse, marquée notamment par 2 titres de championne du monde et une nouvelle victoire en Coupe du Monde. Martina Sablikova a devancé la lanceuse de javelot Barbora Špotáková et le jockey Josef Váňa. L'équipe nationale de tennis, finaliste de la Coupe Davis, a été désignée, elle, collectif tchèque de l'année. Retour sur la soirée avec Guillaume Narguet.
Dámy a pánové, na prvním místě se v anketě Sportovec roku umístila námi všemi milovaná Martina Sáblíková.
Martina Sáblíková a certes été couronnée nouvelle reine du sport tchèque, mais c'est pourtant une autre grande dame du sport tchèque mais aussi mondiale qui a reçu les applaudissements les plus fournis de l'Assemblée. Après plus de 10 ans passés dans l'isolement suite à un drame familial, l'ancienne gymnaste Věra Čáslavská, septuple championne olympique aux Jeux de Tokyo et de Mexico en 1964 et 68, est en effet enfin réapparue en public et c'est une ovation debout qui lui a été réservée.
Mám tu čest a osobní radost přivítat mezi námi Věru Čáslavskou. Na pánové, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná vítězka ankety Sportovec roku. Věra Čáslavská.
C'est donc à Věra Čáslavská qu'est revenu le privilège d'ouvrir la dernière enveloppe dans laquelle se trouvait le nom du phénomène Martina Sáblíková. Déjà élue en 2007, la patineuse de vitesse est la quatrième femme de suite couronnée sportive tchèque de l'année. Plus grand espoir de médaille pour les Jeux Olympiques de Vancouver en février prochain, Martina Sáblíková a de nouveau été l'auteur d'une saison dernière exceptionnelle avec entre autres 2 titres de championne du monde du combiné et du 5000 mètres et une victoire au classement général de la Coupe du Monde des longues distances, soit 3000 et 5000 mètres. À 22 ans, la Tchèque attend toutefois encore la consécration suprême, un titre olympique. Si elle y parvient au Canada, nul doute que Martina Sáblíková fera de nouveau partie l'année prochaine des grandes favorites à un nouveau titre de sportive de l'année. En attendant, pour ce qui est du palmarès de l'édition 2009, Martina Sáblíková a devancé la lanceuse de javelot Barbora Špotáková, médaillée d'argent aux mondiaux de Berlin, et le jockey Josef Vania, vainqueur à 56 ans du grand steeplechase de Pardubice, un des cross country les plus difficiles en Europe pour la 6e fois de sa carrière. Enfin, sans surprise, l'équipe de tennis de Coupe Davis a été élue collectif de l'année. Après avoir éliminé la France, l'Argentine et la Croatie, les Tchèques ont disputé contre l'Espagne début décembre leur première finale depuis la victoire de la Tchécoslovaquie d'Ivan Lendl en 1980.
C'est un spectacle peu banal et assez sanglant, il faut le dire, auquel on peut assister dans les villes et les villages tchèques pendant la semaine de Noël. Partout, d'énormes bassines et des marchands qui vendent seulement des carpes, les tuent et les vident sur place ou les vendent vivantes à emporter. La carpe poisson d'eau douce est le plat traditionnel de Noël de ce pays sans côte maritime qu'est la République tchèque. Écoutez ce petit reportage enregistré hier dans les rues de Prague. Tous les mois de décembre, dans les rues de Prague, à côté des traditionnels marchés et sapins de Noël, ce sont les carpes qui tiennent la vedette. Des dizaines de milliers de carpes vendues en quelques jours pour finir dans les assiettes le soir du réveillon, accompagnées d'une salade de pommes de terre comme le veut la tradition locale. Tout commence dès le début du mois de novembre, lorsque les étangs de toute la République tchèque sont vidés, les carpes sont mises dans une eau propre pour les nettoyer de la vase, une tradition qui remonte au 15e siècle en Bohême.
Oula, j'ai failli me taper sur les doigts, madame. 1, 2, et voilà, et maintenant, on plante le couteau, je vous la pèse. Tiens, je la pèse avec le couteau, comme ça, vous me payez, même le couteau.
Environ 3 euros le kilo, 2 euros de plus si on laisse au marchand le soin d'achever le poisson, mais certains préfèrent l'acheter encore vivant pour la fraîcheur du produit. Et pour tous ceux qui achètent leur carpe encore vivante, il s'agit de ne pas traîner en route pour les replonger le plus vite possible dans l'eau, de préférence dans la baignoire où elles resteront pendant 48 heures.
Après, on va les saler et on les laisse reposer. Celle-là, on va la cuisiner au noir, c'est-à-dire aux prunes et au vin, et je vais la préparer dès maintenant. Et puis la deuxième, on va en prendre les filets demain, le jour du réveillon. Et puis, avec les têtes et les entrailles, on fait une très bonne soupe de poisson.
Z hlaviček a z vnitřnosti uděláme moc dobrou rybí polívku.
Mais même si la carpe reste le poisson traditionnel tchèque, la jeune génération préfère de plus en plus des produits moins locaux, comme le saumon par exemple. Retour dans le studio de Radio Prague. Les historiens qualifient d'événement de la décennie les recherches juste terminées du tombeau des Rožmberk, l'une des familles nobles tchèques les plus influentes. La crypte fait partie du couvent cistercien de Vyšný Brod, une ville dans le sud de la Bohême, fondée en 1259 par Vok Ier de Rožmberk, à l'instar de l'abbaye de Cîteaux, et autour duquel les Rožmberk avaient organisé leur vaste domaine. Les images prises à l'intérieur de la crypte par une caméra miniature ont mis fin à la légende selon laquelle les Rožmberk y étaient enterrés assis autour d'une table. Mais l'énigme persiste encore, comme nous le dit Jarka Gisubelova.
J'ai été très frappée par l'austérité de cet espace. C'est en ces termes que Zuzana Tomova, archéologue du musée de Bohême du Sud, a réagi aux images révélées grâce à une caméra sonde. La légende sur le mystère du tombeau selon laquelle les seigneurs Rožmberk étaient assis dans des fauteuils dorés autour d'une table pompeuse telle que Bohuslav Balbín l'avait décrite au XVIIe siècle n'a pas été confirmée. Contrairement à cette légende, les Rožmberk sont inhumés dans des cercueils reposant au fond de la crypte de l'église du couvent de Vyšný Brod. Ce qui suscite des points d'interrogation, ce sont les petites dimensions de la crypte, alors que 39 membres de la famille Rožmberk devaient y être inhumés. On écoute Zuzana Tomová.
Selon les documents d'archives, le couvent de Vyšný Brod a été pendant plus de 350 ans un lieu d'inhumation et pas moins de 10 générations de Rožmberk y ont été enterrés. En ce moment, nous ne sommes qu'au début des analyses du matériel réunies pendant un an et demi de recherche et nous ne pouvons en dire davantage.
Ce qui est d'ores et déjà certain, c'est que 2 sarcophages en étain ont été saisis par la caméra sonde à l'intérieur de la crypte. L'un d'entre eux orné de reliefs du crucifix et des armoiries des Rožmberk, représentés en position inverse en signe d'extension de la famille en ligne masculine, appartient au dernier des Rožmberk, Petr Vok. Le deuxième serait celui de son épouse Catherine. Les images ont saisi plusieurs couches de bois provenant des planches de cercueil avec des restes de tissus et d'ossements dans lesquels les chercheurs essaieront d'identifier les dépouilles des autres membres de la famille. Autre légende que les recherches ont démentie, celle racontant que les nazis avaient caché dans la crypte des objets d'art spoliés d'une valeur inestimable, parmi lesquels la fameuse chambre d'ombre.
C'est un fait incontestable, le couvent de Vyšný Brod a servi pendant la guerre d'entrepôt du futur musée d'Adolf Hitler à Linz, mais les soldats allemands n'ont jamais pénétré à l'intérieur de la crypte et je n'oserais pas dire qu'un pareil trésor est resté caché quelque part à Vyšný Brod.
Pour Zuzana Tomová, l'importance des recherches menées par une méthode non-invasive réside dans le fait que c'est la première fois dans l'histoire qu'a pu être documenté en détail le lieu du dernier repos des membres de la puissante famille aristocratique des Rožmberk, celle-là même qui a façonné la ville de Český Krumlov, qui a fait construire des monastères et châteaux et qui a assuré pendant des siècles la prospérité économique et culturelle de toute la région de Bohême du Sud.
Le directeur administratif de l'Orchestre philharmonique tchèque, Vladimír Darianin, n'est entré en fonction qu'il y a 6 mois et déjà il se heurte à de sérieux problèmes. Le ministère de la Culture n'est pas satisfait de l'audit de l'orchestre qu'il a commandé et reproche à Vladimír Darianin de ne pas avoir renoncé à des activités incompatibles avec sa fonction. Václav Ritter.
Trop de dépenses pour des services juridiques et la publicité et des revenus trop bas, c'est ce que reproche le ministère au management actuel de la Philharmonie tchèque, le meilleur orchestre symphonique du pays. Selon Renata Slamková du ministère de la Culture, il ne faut pas s'étonner dans ces circonstances des rumeurs selon lesquelles le ministère se prépare à relever Vladimír Darianin de ses fonctions. Pour l'instant, le ministère refuse cependant de confirmer ces rumeurs. Le directeur critiqué se défend.
Půl roku v státní instituci je skutečně poměrně málo času, nicméně
Six mois à la tête d'une institution d'État est une période trop courte. Néanmoins, nous avons fait des changements dans la présentation de l'orchestre, dans les domaines comme les vêtements, les programmes, les affiches, etc. Nous avons également commencé à préparer intensivement la saison 2012-2013, ce qui veut dire que nous avons visité, moi et le manager de l'orchestre, beaucoup de pays et beaucoup d'agences. En 2011, la tournée de la Philharmonie au Japon sera organisée dans des conditions tout à fait différentes, avec une nouvelle agence et avec un chef d'orchestre beaucoup plus prestigieux.
Vladimir Derianin a fait un faux pas dès son entrée en fonction. Il a cherché à raccourcir le contrat du nouveau directeur musical de la Philharmonie, le chef d'orchestre Eliyahu Inbal, en prétendant avoir en vue un chef plus prestigieux. Cette volonté a échoué, le contrat d'Eliyahu Inbal est resté sans changement, et Vladimir Derianin se dit aujourd'hui être en bon terme avec le directeur musical. Toujours est-il que c'est une coexistence qui lui a été imposée et qu'il rechignait à accepter. Aujourd'hui, cependant, il doit faire face à un reproche plus sérieux. Le ministère lui rappelle son engagement de renoncer, après son entrée en fonction, à ses activités dans le domaine audiovisuel pour éviter un conflit d'intérêts. Mais Vladimir Derianin refuse de le faire et explique pourquoi.
Je ne l'ai pas fait parce que je ne me doutais pas que le salaire du directeur administratif de la Philharmonie était franchement ridicule. Le directeur ne dispose que du décret de nomination, il n'a pas de contrat et sa fonction manque donc d'un cadre juridique. Il est nommé pour 6 ans, mais il n'a pas de garantie pour rester en fonction pendant toute la durée de cette période. La loi permet à mon supérieur de me relever de mes fonctions à n'importe quel moment.
La commission artistique de la Philharmonie tchèque s'est récemment adressée au ministère de la Culture en manifestant son soutien à Vladimir Derianin et en soulignant que les rumeurs sur sa révocation inquiétaient les membres de l'orchestre. La réaction du ministère se fait attendre.
Et c'est déjà la fin des faits et événements. Le programme en français continue dans une poignée de secondes avec la rubrique historique.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour l'avant-dernière page d'histoire de l'année 2009. Comme chaque année, à pareille époque, l'heure est au bilan. Retour donc aujourd'hui sur quelques-uns des événements parmi les plus marquants de l'année écoulée qui ont été au cœur de nos programmes précédents. Ainsi, au mois de janvier, nous vous avons invité à une exposition consacrée à Jan Palach. Pour la première fois, les documents authentiques retrouvés dans le dossier établi par la STB sur Jan Palach après son immolation par le feu le 16 janvier 1969 ont été exposés. Parmi eux, la lettre que Jan Palach a laissée dans la poche de son manteau dont il s'est débarrassé sous la rampe du musée national avant de s'immoler par le feu. Il y écrit qu'un tirage au sort a décidé que ce serait lui la première torche et que d'autres étudiants étaient prêts à ce sacrifice. Pour le prorecteur de l'université Charles, Moimir Horina, cette lettre prouve que la mort de Jan Palach n'a pas été un geste romantique et moins encore négativiste, mais un geste d'altruisme, un moyen ultime de défense de la liberté. Un rappel tacite du souvenir de Jan Palach a persisté tout au long des 40 ans sur le sol de l'université.
Dans le grand pavois de l'aula historique derrière la loge du recteur, le mât au milieu ne porte plus, depuis janvier 1969, le drapeau. C'est exactement le mât dont on a descendu le drapeau tchécoslovaque pour le poser sur le cercueil de Jan Palach, et en l'honneur de son acte, la place au milieu du pavois est restée et restera toujours vide.
Tato žert prostě prázdnou zůstávala a zůstane.
So 70 ans après le départ de centaines d'officiers et de simples soldats tchécoslovaques en Occident pour combattre dans les armées étrangères contre Hitler, après avoir été démobilisés dans leur pays occupé, l'Écosse a érigé un mémorial en hommage aux parachutistes tchécoslovaques. Le mémorial représentant un parachute tombé par terre, mais qui ne s'est pas plié et dont la voile est restée ouverte, symbole de l'espoir, est situé sur un beau site au port d'Arisaïk, avec une vue des îles derrière lesquelles le soleil se couche. Il honore la mémoire de tous les volontaires tchécoslovaques et est conçu à la fois comme une tombe du soldat inconnu, à la mémoire de ceux dont on ignore où il repose. Czech Memorial est le nom de l'association tchéco-écossaise qui s'est chargée de l'édification de ce mémorial. Son représentant Paul Millar, qui est le consul honoraire tchèque en Écosse, expliquait à Radio Prague pourquoi la Grande-Bretagne, là où la première brigade mixte tchécoslovaque a été fondée après l'évacuation de soldats des ports français.
La Grande-Bretagne a été le seul pays en état de guerre avec l'Allemagne. L'état-major général britannique est allé demander de l'aide auprès de Churchill en lui disant « Nous avons besoin d'alliés et les seuls alliés que nous pouvons avoir, ce sont des mouvements de résistance clandestins dans les territoires occupés ». On a créé une section spéciale baptisée Special Operations Executive qui avait pour tâche d'entrer en contact avec ces mouvements et qui a commencé à recruter dans les rangs de l'armée britannique les hommes venus de l'étranger. C'était des Tchécoslovaques, des Polonais, des Norvégiens, des Hollandais, des Français.
La nuit du 30 septembre au 1er octobre est tombé le 20e anniversaire d'un événement qui conduira 2 mois plus tard à la chute du mur de Berlin. L'exode massif de milliers de ressortissants est-allemands fuyant le régime Honecker pour aller s'installer en RFA via Prague. Pendant l'été 1989, plusieurs vagues de fugitifs de l'ex-RDA se sont réfugiés dans les locaux de l'ambassade allemande à Prague pour y demander le droit d'asile. Selon certaines sources, ce bâtiment est devenu un point de repère pour 15 000 personnes. La majorité d'entre elles sont restées devant ses portes, dormant par terre. D'autres, plus chanceux, ont trouvé refuge dans les bureaux évacués et sous des tentes montées dans le jardin. Une solution à cette situation menaçant d'une crise humanitaire a été apporté par le chef de la diplomatie fédérale d'alors, Hans-Dietrich Genscher. Arrivé dans la capitale tchécoslovaque le 30 septembre 1989, il a fait son apparition sur le fameux balcon de l'ambassade pragoise de la RFA, que personne depuis n'appelle plus autrement que balcon Genscher, pour annoncer aux réfugiés séjournant en ce moment dans son enceinte qu'ils pourraient rejoindre l'Allemagne de l'Ouest. Les derniers mots du discours historique se perdaient dans le bruit assourdissant de la foule enthousiaste.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise.
Chers concitoyens, je suis venu ici pour vous annoncer que votre départ pour la République fédérale d'Allemagne est libre. La même faculté des lettres de l'université Charles de Prague, qui a été un des foyers de la révolution de velours, dont nous avons commémoré cette année le 20e anniversaire, a accueilli le 15 novembre une conférence internationale sur le thème « La liberté et ses adversaires ». Parmi les intervenants à cette conférence organisée par Václav Havel, le philosophe français Henri Glucksmann, qui, déjà dans les années 1960, disait « attention au marxisme en tant que plateforme des diverses formes de totalitarisme ». C'est de l'originalité de la révolution de velours tchécoslovaque dont il a notamment parlé.
C'est que ce n'est pas seulement une révolution pour la liberté, C'est une révolution pour la vérité. Il s'agissait d'échapper au plus grand mensonge de l'histoire du XXe siècle, celui qui a prêché la paix et qui a fait la guerre, le mensonge qui a prêché la fraternité et qui a créé l'oppression la plus radicale, le mensonge qui voulait la justice et qui a créé le goulag. Alors, à mon avis, la révolution dissidente, son principal mérite et sa principale nouveauté, c'est d'avoir lié liberté et vérité. C'est tout, mais c'est une tâche qui se continue, puisque nous sommes en proie à ce nihilisme passif qui fait que nous avons regardé mourir 200 000 Tchétchènes sur une population de 1 million. Donc nous sommes dans cette situation où le rapport entre la liberté et la vérité, ce n'est pas une question du passé, c'est une question de notre avenir.
Merci à Yarkagi Subelova pour ce retour sur l'année 2009 et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année à l'écoute des programmes spéciaux concoctés par Radio Prague bien sûr. N'oubliez pas non plus le nouveau concours de Radio Prague. Pour en savoir plus, c'est sur notre site internet le www.radio.cz, www.radio.cz. Après, vous cliquez sur français, vous savez comment ça se passe. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir, nasredano.
En su receptor, Radio Praga. Emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 y 15.255 kHz. A las 10:30 UTC transmitimos para el Caribe y Sudamérica por los 9.955 kHz a través de la repetidora en Miami. A las 15 horas UTC transmitimos para España por los 11.600 y 13.580 kHz. A las 19 UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 6.200 y los 9.430 kHz. Radio Praga transmite a las 20 horas UTC para España por los 5.930 y los 9.430 kHz, y a las 21.30 UTC para España y Sudamérica por los 5.930 y los 9.435 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 5.930, los 7.345 y los 7.420 kHz. Esta última frecuencia a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A la 1.30 horas UTC, los radioescuchas de Centroamérica nos pueden sintonizar por los 6.200.